C'est l'été et pour la première fois, je vous propose des rediffusions d'anciens épisodes de Génération Do It Yourself. Alors ça veut pas dire qu'on va pas faire d'épisode cet été, qu'on va pas vous sortir toutes les semaines un nouvel épisode, mais on a décidé qu'on allait vous proposer des épisodes qui sont déjà passés, qui vous ont beaucoup plu, parce que certains d'entre vous les ont loupés, parce que vous les avez pas écoutés encore, parce qu'ils sont super, parce qu'ils vous ont plu, parce qu'ils ont plu à l'équipe de Génération Do It Yourself, à Caro, à Zoé, à Juliette. Voilà, donc cet épisode en fait partie. Écoutez-le, partagez-le s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Je vous embrasse et profitez de votre été. Pour ceux qui sont nouveaux sur Génération Do It Yourself, on est au milieu d'une série d'épisodes très intenses et je vous recommande vivement de remonter quelques épisodes en arrière. Il y a du lourd. Pour ceux qui sont désormais habitués, je vous préviens tout de suite, je ne lâche rien sur cet épisode. Je m'apprête tout simplement à vous faire écouter l'une des conversations les plus passionnantes de ma vie. Navigateur, capitaine, aventurier, tant de qualificatifs peuvent évoquer Éric Bellion. Alors que rien ne le prédestinait à devenir marin, Éric est natif de Versailles, il a très tôt fait le choix qu'il voulait prendre sa vie en main et vivre des aventures. Il a à son actif un très beau palmarès de marin. Plusieurs tours du monde, une transat Jacques Vabre et plus récemment le Graal, le Vendée Globe, course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, qu'il a bouclé en moins de 100 jours. Éric nous raconte ses peines, ses joies immenses, ses préparatifs et l'importance du travail en équipe pour une course en solitaire. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, de cliquer sur s'abonner sur iTunes et sur SoundCloud. C'est gratuit et c'est important pour moi. Bonne écoute sur Génération Do It Yourself avec Éric Bellion et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Éric Bellion chez Raise, qui est un fonds d'investissement. Donc
une société d'investissement.
Bonjour Éric.
Bonjour.
Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Éric Bellion, j'ai 41 ans. Je suis navigateur. Toujours difficile de se présenter. Je suis aussi un aventurier et ce que j'aime faire, c'est des aventures contagieuses. Voilà, pour pousser les gens à s'ouvrir à l'autre, à ne pas se recroqueviller, à tenter des choses qu'ils n'ont jamais fait pour avoir des choses qu'ils n'ont jamais eues.
Tenter des choses qu'ils n'ont jamais faites pour avoir des choses qu'ils n'ont jamais eues, c'est très bien. À partir de quand, depuis quand tu te présentes comme navigateur ?
Ah, c'est une bonne question.
À partir de quand c'est... tu peux te... Est-ce que si tu as fait de l'optimiste, tu es un navigateur ?
Bah oui, même... Enfin, tu vois, moi, j'ai commencé à aimer la voile et les bateaux et la mer à travers la lecture quand j'étais enfant. Et quelque part, j'aurais pu me présenter comme navigateur, puisque je naviguais dans mes rêves. Mais j'ai commencé à me présenter comme navigateur depuis 2-3 ans. Voilà.
2-3 ans.
Parce que ça faisait vraiment partie de mon quotidien et des aventures que je mettais en place. Il y avait vraiment un gros aspect navigation. Et je trouve ça sympa quand on se présente, de dire « bah voilà, je suis navigateur, j'aime bien, c'est peut-être le métier le plus cool du monde ».
Peut-être, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours, en fait, si je pose cette question, c'est que, alors moi, j'ai une tendance à me présenter comme entrepreneur, parce que, j'ai créé un certain nombre de boîtes depuis une douzaine d'années. Mais certaines personnes le voient un peu avec prétention. L'entrepreneur a sorte de buzzword, tu vois, en ce moment. Et je me dis, quand tu dis je suis navigateur, les gens doivent te regarder aussi en se disant, ah ouais, donc c'est son métier, c'est un métier, c'est bon, ouais.
Ouais, c'est bizarre.
Et aventurier, j'imagine, alors là, c'est encore le niveau au-dessus. Quand tu te présenteras réellement comme aventurier en premier avant navigateur, je pense que tu as donc vécu des aventures au-delà de la navigation. Pour te qualifier d'aventurier.
Déjà, aventurier, il y a plusieurs significations à aventurier, mais en fait, le Vendée Globe, c'est la quatrième aventure que je monte.
D'accord.
Donc, d'ailleurs, jamais tout seul. Hein. Je le fais avec une équipe, avec des équipiers, avec des cofondateurs aussi. En revanche, il y a toujours eu un lien entre ces aventures, c'est qu'elles ont toutes trait à la différence et à la perception que l'on a de la différence.
D'accord. Alors, on va revenir sur tous ces points. Vendée Globe, aventure, différence. Parce qu'en effet, évidemment, Alors, moi, j'ai eu l'occasion de te connaître par deux canaux différents, l'un qui est Pierre-Olivier Boucher, que je salue, qui m'a recommandé de te contacter, l'autre qui est le Vendée Globe, évidemment. Tu peux nous parler de tes trois autres aventures, alors, avant qu'on aille là-dedans, peut-être ?
Oui. Alors, la première aventure, ça a été un tour du monde à la voile que j'ai réalisé avec deux amis.
D'accord.
Donc, autour du monde, sur une épave flottante de 8 mètres. Tout a changé dans cette aventure qui devait être une aventure comme font beaucoup de jeunes après leurs études, d'aller naviguer autour du monde ou d'aller voyager autour du monde. Le truc, c'est tout a changé au moment où nous, on a eu envie de partager la chance qu'on avait à 25 ans de réaliser le rêve de notre vie. Et en fait, on a voulu partager cette aventure avec ceux et celles qui peuvent pas larguer les amarres. C'était l'idée qu'on avait en tête. Et il se trouve qu'un de nous trois, Brice, avait deux cousins infirmes moteurs cérébraux, handicapés de naissance.
D'accord.
Et donc on allait voir ses cousins. Derrière, il y avait une association de 45 jeunes adultes handicapés et leurs familles. Et de fil en aiguille, on a créé toute une aventure autour du monde qui a duré 3 ans, qui s'appelait Keep Win. Et donc il y a eu 45 jeunes adultes handicapés qui nous ont rejoints sur des escales. Et moi, ça a bouleversé ma vie parce que en rentrant, j'étais plus le même. J'avais ouvert un œil sur le monde. Moi, je viens d'une banlieue chic parisienne, hein, de Versailles, d'un milieu bourgeois. J'avais l'impression de vivre un peu le monde avec des œillères. Et en rentrant de ce tour du monde, donc avec des jeunes de mon âge, qu'avec des trajectoires de vie complètement différentes, et surtout en m'étant clochardisé avec mes deux copains pendant 2 ans. Je me suis rendu compte que dans notre société, on avait un souci, on vivait un truc de malade, c'est-à-dire que on payait des gens qui font partie de notre société à ne rien faire, des personnes handicapées. C'est qu'on leur sert une aide tous les mois pour qu'ils restent chez eux. Et ça, j'ai pas compris. En tant que citoyen, j'ai pas compris. Ça m'a mis en colère. Je me suis dit, comment on crée un argent de poche avec des gens adultes qui peuvent travailler. L'argent de poche, ça existe que entre parents. Et là, c'est ce qui se passait. Et donc, j'ai essayé de comprendre ça. Et ça a été le début, en fait, de ma démarche. Essayer de comprendre pourquoi on refusait de faire 2 pas dans le noir en acceptant la différence. Et donc, j'ai créé le défi intégration avec un sportif handicapé qui s'appelle Laurent Marzec. C'était un projet très simple de faire un record à la voile entre la Bretagne et l'île Maurice, faire une première mondiale sur un bateau complètement adapté, d'accord, avec 3 sportifs handicapés, 3 sportifs valides, et démontrer par là que de la mixité pouvait sortir de la performance. Ce record, on l'a obtenu, on le détient toujours. La seule chose, c'est que cette aventure, elle a été extrêmement dure sur le plan humain. La première chose que je me suis dit en arrivant à l'île Maurice, c'est plus jamais ça, quoi. Et j'ai voulu comprendre pourquoi ça avait été aussi dur. Qu'est-ce qui avait foiré dans notre histoire ? Et on a eu pas mal d'échecs, en fait.
Ça, c'est le deuxième défi. Hein.
Deuxième défi,
oui. Alors, ok, restons sur le deuxième défi, parce que le premier, du coup, est quand même quelque chose de fondateur et d'intéressant. Mais du coup, quand tu dis « t'arrives plus jamais ça », c'est que tu vas me le dire peut-être, mais vous êtes engueulé, c'était l'enfer à bord ou...
Oui, alors en fait, pendant le record, ça s'est bien passé, parce qu'on avait mis à plat tous nos différends. Mais les 2 ans de préparation ont été un calvaire. Parce qu'on a fait une erreur de casting, en fait. On a recruté 3 sportifs handicapés et 3 sportifs valides, alors qu'on aurait dû recruter 6 marins qui partageaient le même objectif. Et dans ces 6 marins qui partagent le même objectif, il pouvait y avoir des personnes handicapées, il pouvait y avoir des personnes valides. C'est complètement différent. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point on est tous obnubilés par le superficiel, par ce qu'on voit. Et que le principal, c'est les ressemblances invisibles et que c'est assez invisible aux yeux et qu'il faut aller voir. Donc, il faut avoir une certaine bienveillance pour aller vraiment découvrir la personne. Et donc ça a été le principal problème. Donc, dans cette aventure, il y avait des personnes qui étaient pas faites pour ça. Et on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'elles n'étaient pas faites pour ça, en fait.
Et vous étiez 6 sur le bateau.
Ouais.
Et tu dis l'enfer, c'était vraiment plutôt les 2 ans de prépa.
Ouais.
Plus que donc ça a duré combien de temps le défi intégration?
Ça a duré 68 jours.
Ouais. Et les 68 jours se sont bien passés.
Ça s'est bien passé parce que justement, on a, au bout de 2 ans, on a trouvé les solutions pour bien travailler ensemble. Et puis on s'est séparé des personnes qui n'étaient pas faites pour l'aventure. Voilà.
Et quand tu dis tu parles un peu de cette sélection de personnes et de la superficialité en fait, qui peut m'intéresser pas mal, que ce soit est-ce que ça peut se porter peut-être au recrutement de personnes, aux collaborateurs, à pas mal de choses, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as des techniques pour passer outre, comment est-ce que matérialise cette superficialité?
Ben justement, j'ai voulu comprendre. Alors déjà, j'ai mis un an à m'en remettre à digérer l'histoire, parce que humainement, c'est super difficile. Déjà, quand tu touches à l'aspect handicap, c'est déjà énormément d'affect. C'est très, très compliqué. Mais pendant un an, j'ai essayé de comprendre ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et surtout, comment faire en sorte que de recruter des personnes qui partagent le même fondamental. C'est ça le plus important. Et je me suis dit, en recrutant, en essayant de mettre en place une façon de recruter justement ces gens qui partagent le même fondamental, est-ce qu'on peut pas se dire que à partir du moment où ils ont ce fondamental, le fait d'avoir des gens complètement différents qui partagent ce fondamental, c'est peut-être là justement qu'on donne de la valeur à la différence. Donc pour recruter, aujourd'hui, moi j'ai cinq piliers, principes d'action en fait qui m'animent, et je cherche dans les équipiers et équipières qui m'entourent. Je respecte toujours ces 5 piliers.
Que tu veux nous dire?
C'est-à-dire que...
Attention, parce que si des gens écoutent ça et viennent te voir après, ce sera biaisé. Hein.
C'est-à-dire que pour moi, pour réussir vraiment durablement, il faut oser la différence. Donc avoir des gens qui osent faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et qui ne le font pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce que je vois en fait... a peu d'importance, le plus important c'est le fondamental, et le fondamental est invisible aux yeux. Donc j'accepte de faire ces 2 pas dans le noir pour aller rencontrer la personne et savoir si oui ou non je peux travailler avec elle, ou pas. Donc c'est déjà définir son propre fondamental, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon objectif, quel est le sens de l'engagement que j'attends, quel est le sens du sacrifice, quelle est la capacité à collaborer, etc. La deuxième chose, c'est faire confiance. Parce qu'à partir du moment où on décide de travailler ou vivre quelque chose avec une personne qui est différente de soi, et qu'on met le focus sur ces différences-là, faut accepter que la personne fasse pas la même chose que soi de la même façon. D'accord. Donc faut accepter de pas formater la personne. Et on a tous tendance à vouloir se rassurer tout le temps. Et la meilleure façon qu'on a de se rassurer, c'est de formater. Et ça, c'est idiot.
Je pense que ça, c'est... quelque chose qui est pour les plus jeunes qui nous écoutent en tout cas hyper important, parce que j'ai l'impression que tu t'en rends compte assez tard dans la vie c'est-à-dire que la confiance, j'en ai parlé avec Sébastien Kopp de Veja notamment, et qui me racontait justement de ne pas essayer de formater les gens, et que les gens sont plus heureux, donc plus productifs, trouvent leur voie, et que ça a rien à voir, c'est pas juste un peu plus, c'est juste ça, c'est le jour et la nuit quoi, quand on fait vraiment confiance aux gens, voilà. Et y a des moments où moi j'ai encore, ça m'arrive hein, d'avoir du mal à faire confiance à certaines personnes, et on se demande pourquoi, mais dès qu'on passe ce cap, c'est tellement fantastique. Et ce que je veux dire là, c'est que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous qui sommes presque quarantenaires, etc., on est arrivé souvent assez tardivement à cette confiance. Je sais pas de quand tu parles là, à quel âge tu avais, mais en tout cas, s'il y a bien une leçon à prendre pour les plus jeunes, c'est d'essayer de le faire assez tôt, je pense.
Ben, la difficulté, c'est que pour faire confiance, il faut se faire confiance.
Tout à fait.
Moi, quand je suis sur un de mes bateaux de course, qui sont des bateaux très fragiles, avec beaucoup de surface de toile, quand je recrute quelqu'un pour naviguer avec moi, et que cette personne, une fois que je sais qu'elle partage les mêmes fondamentaux que moi, et qu'elle me dit « Tiens, j'ai pensé à une façon de faire la manœuvre différemment », faut que j'accepte de la laisser faire en me disant « Si elle fait une bêtise, je suis capable de récupérer derrière ». Et ça change tout. Si tu te sens pas capable de récupérer derrière, tu feras jamais confiance dans la personne. Donc en fait, c'est ça, c'est que ça demande du temps de se faire confiance. En fait, c'est le travail d'une vie. Hein.
Oui.
Mais plus on se fait confiance, plus on fait confiance, parce qu'on sait quelque part qu'on peut récupérer. Je sais que j'ai fait une transat Jacques Vabre avec un Anglais qui s'appelle Sam Goodchild, qui est un navigateur extraordinaire, qui est jeune. Aujourd'hui, il a 26 ans. Quand on s'est rencontrés, il avait 25 ans. Et quand j'ai voulu faire la Jacques Vabre, c'était pour me préparer pour le Vendée Globe. J'avais jamais fait de l'IMOCA, qui est le bateau du Vendée Globe, qui est un bateau qui fait 18 mètres de long, qui porte 600 mètres carrés de toile, qui a un mât de 30 mètres. Enfin, c'est une bête, c'est un monstre une Formule 1 monstrueuse. Et j'avais en tête, dans ma préparation, que j'allais trouver un homme de 50 ans, avec beaucoup d'expérience en IMOCA, dans ce bateau, qui allait m'aider à franchir les étapes. Et en fait, pas du tout, je me suis retrouvé avec un petit jeune de 25 ans, anglais en plus, qui avait jamais fait d'IMOCA. Mais en fait, j'ai trouvé cette personne, alors c'est Michel Desjoyaux qui nous a présenté, et j'ai trouvé dans cette personne, en fait, quelqu'un qui partageait avec moi une envie extraordinaire de faire quelque chose de bien sur cette course.
Mmh.
Et qu'il était prêt à faire des sacrifices énormes et qu'il était prêt à collaborer, qu'il avait peu de rivalité en lui et qu'il avait envie de pousser le projet, de pousser toute l'aventure. Et donc, on a commencé à causer. Et lui, c'était un peu... il avait 25 ans, mais c'était le plus capé. Il avait beaucoup évolué dans la voile. Il avait beaucoup travaillé avec les meilleurs sur des gros bateaux. Et moi, j'étais le plus vieux, donc 40 ans, qui n'avait jamais pris un cours de voile et qui fait tout à l'instinct. Et donc, il y en avait tous les ingrédients pour s'engueuler et pas se faire confiance, parce que lui voyait le gars qui débarque sur le circuit où il n'y a que des pros et qui est incapable de justifier un choix. Quand je décide de prendre telle ou telle voile, je peux pas faire un tableau Excel pour expliquer mon choix. La seule chose que je peux dire, c'est « je le sens pas » ou « je le sens ». Et lui, il a accepté de respecter ça. Il a respecté ça. Et moi, en même temps, j'ai accepté de pas voir le jeune fou et de dire qu'au-delà de ces 25 ans-là, il avait la maturité pour faire en sorte que l'aventure aille jusqu'au bout. Et donc, on s'est fait suffisamment confiance pour nous dire nos fragilités, dire aussi en quoi on se sentait menacé par l'autre. On s'est fait coacher, en fait. Et ça a tout changé, ce qui nous a permis de briller, puisqu'on sur cette course où il y a 21 bateaux avec les meilleurs du circuit, on finit 7e, ce qui était une place inespérée, parce qu'on était l'équipage qui avait le moins d'expérience, en fait, sur ce support.
Bravo. C'était quand ça, donc, l'année dernière ?
C'était en 2015.
Il y a 2 ans.
Ouais.
Et donc, la première, on va dire, grosse transat, ça.
Ouais. La première grosse course, ouais.
Et alors. Pour revenir sur tes 5 piliers, on a parlé d'oser la différence, de faire confiance.
Ouais.
Donc là, on est resté sur la confiance. Moi, je te dis, j'apprécie beaucoup ces histoires parce que je pense, tu vois, nous, on travaille sur l'univers du digital.
Ouais.
Et beaucoup de gens nous disent de chercher, par exemple, des jeunes parce que c'est du digital. Ouais. Et on voit qu'en fait, ça a rien à voir, qu'il y a des vieux qui sont hyper digitaux, des jeunes qui ne le sont pas du tout.
Ah oui.
Et heureusement, d'ailleurs, parce que si tous les jeunes ou les vieux étaient formatés complètement, ce serait absolument triste de le monde dans lequel on vit.
Oui, parce qu'on a des idées préconçues, des choses qu'on projette sur les gens. Donc forcément, les jeunes sont dans le digital, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande une certaine bienveillance.
Mmh. Voilà. Après, j'ai juste une question pour venir après sur les 5 piliers. Tu parles de recruter des marins avant de recruter des handicapés ou des valides. Le marin handicapé, je veux dire, ça existe, t'en trouves
C'est rare.
Oui, voilà, c'est ça.
Bah, c'est rare parce que bah, c'est comme dans le travail. Il y a longtemps, il n'y avait pas de quotas. Mmh. Donc, il n'y avait pas d'accès au travail. Donc, il n'y avait pas de personnes handicapées sur le marché du travail. Mmh. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est vrai que les marins, personne n'aurait l'idée d'embarquer sur un bateau de course une personne handicapée. Moi, j'ai un grand exemple, c'est un de mes meilleurs équipiers, c'est Olivier, il est aveugle. Et la plupart des professionnels, quand ils m'ont vu débarquer avec un équipier aveugle, m'ont dit « mais tu t'es complètement fou, quoi ».
Tu vas le tuer déjà.
Il va se tuer. Comment il va faire pour voir une vague déferlante? Si un cordage casse, comment il va voir si la voile lui tombe dessus? Enfin, genre, tout le monde avait plein d'idées préconçues sur ce qui pouvait arriver, tous les drames qui pouvaient arriver. La seule chose qu'ils n'avaient pas vu, c'est que Olivier, il avait une faculté énorme, c'est qu'il était aveugle. Et en fait, pour être un excellent barreur sur les bateaux, il faut justement pas utiliser la vue. Il faut utiliser ses sensations et les sensations de l'assiette. Et en fait, les très bons barreurs n'utilisent pas leurs yeux, ils utilisent leurs fesses. C'est comme un très bon cavalier ou un très bon pilote de Formule 1. Il pilote à la sensation. Et donc, en n'ayant pas la vue, Olivier, qui faisait déjà de la planche à voile, hein, c'était pas n'importe qui, c'était l'homme le plus rapide en planche à voile aveugle.
D'accord. Monde,
avec 24,7 nœuds. Donc, il avait déjà en lui la sensation de la glisse. Et donc, il a été obligé de travailler énormément sur ses sensations. Au début, c'était un piètre barreur. C'était le pire barreur qui soit. En fait, il nous faisait des sorties de roue dans tous les sens. Mais très vite, à force de concentration, à force aussi de collaboration avec des membres de l'équipage, il a réussi à devenir le meilleur barreur du bateau. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs barreurs que je connaisse parce que son handicap est devenu, en fait, la chance de sa vie. Et grâce à ça, il barre super bien.
Et alors, question un peu con d'un bleu de la voile. J'ai fait un peu de voile, hein, mais pas plus que ça. Je suis passé au-delà de l'optimiste, peut-être au bicat, et ça m'éclate. Mais un barreur, enfin, il faut quand même voir le ferry qui arrive en face ou l'île qui est. Donc ça, c'est le travail d'équipe, en fait.
Exactement. Ouais. Le barreur, Olivier, en fait, il peut barrer super bien quand le bateau est réglé. Si le vent change à 180 degrés, ben il fait demi-tour avec le vent. Donc il faut un équipier pour l'aider derrière.
Et du coup, c'est quoi un bon barreur? Ça veut dire quoi? Alors si c'est explicable comme ça, mais ça veut dire
un bon barreur, c'est quelqu'un qui va vite. C'est quelqu'un qui permet de. C'est comme un bon pilote. C'est quelqu'un qui va vite.
Qui arrive à sentir le vent dans la voile et faire en sorte que ton bateau aille plus vite parce qu'il est au millimètre près.
C'est quelqu'un qui est capable de garder, de faire en sorte que le bateau garde la même assiette. Le plus longtemps possible. Et donc tout ça, c'est énormément
une sensation,
d'anticipation, ouais, en fait, sur ce qui va se passer. Et le truc, c'est que quand tu regardes, on avait beaucoup d'instruments, hein, on a un cockpit avec un tableau de bord et on a les informations de vent qui nous arrivent. Et donc tu peux réagir à la vue, mais ce problème, c'est que le temps que le message passe de tes yeux à ton cerveau, t'as déjà perdu du temps. Alors que lui, et c'est le cas pour les très bons barreurs, l'information, elle passe d'abord par les fesses et directement au bras.
D'accord.
Elle passe pas par le cerveau et par les yeux. Donc, lui est capable, juste à la sensation, d'anticiper le mouvement de la barre. Donc, il va beaucoup plus vite que quelqu'un qui a besoin de la vue pour barrer.
Très bien. Et t'as convaincu tes collègues navigateurs, où la plupart, ils ne le savent pas, ils s'en doutent pas aujourd'hui? Je veux dire, ceux qui te disaient, tu étais complètement maboule.
C'est un fait. Ils ont vu que ça marchait. Après, la difficulté, c'est jamais de. Quand le fait est là, tout le monde dit, je savais, etc. Mais au début, quand l'idée a été d'intégrer Olivier, ça a été super compliqué parce que il y avait plein de gens qui pensaient que c'était vraiment une très mauvaise idée, qu'on allait se blesser, que lui allait se blesser. Mon équipage aussi, à un moment, était proche de la mutinerie, quoi, en disant, comme il faisait énormément de sorties de route parce qu'il n'avait pas de contrôle, et qu'il avait besoin de plus de temps pour barrer correctement, on cassait du matériel, les équipiers qui se reposaient pouvaient pas se reposer parce qu'il fallait sortir sur le pont pour réparer ce que Olivier cassait. Donc ça a créé des tensions énormes.
Et une sortie de route, pardon, mais pour justement expliquer sur de la voile, c'est donc on te donne un cap, on te dit de suivre quelque chose et c'est quand tu le suis plus ou c'est
C'est-à-dire que les bateaux sont très toilés et ils sont toilés pour un angle de vent précis. Si on sort de cet angle de vent, le bateau se couche.
Okay.
Donc on est à 90 degrés sur l'eau, les voiles se déchirent. Donc il faut aller chercher la voile dans l'eau et tout ça, ça se passe dans beaucoup de vent, donc c'est extrêmement impressionnant, ça fait peur. Et quand on a des bateaux qui peuvent porter des speeds 400 mètres carrés, Vous imaginez ce que c'est, 400 mètres carrés à l'eau.
On n'est pas content quand on est coéquipier, ça fait pas plaisir. Quoi.
Non, ça fait peur.
Et d'accord. Et l'une des spécificités de la voile, hein, c'est un sport qui peut faire très peur quand même. Je crois que t'en parles. Je t'ai vu en parler quelques reprises. Mais et toi, quand tu es à bord, tu es le capitaine.
Ouais.
Depuis ton premier tour du monde à la voile, t'es le capitaine.
Non, j'étais pas le capitaine sur le tour du monde. C'était Brice qui était le capitaine.
D'accord.
Il n'y avait pas une hiérarchie extrêmement précise, mais après, depuis le défi intégration, depuis le deuxième projet, ouais, je suis le capitaine.
Et tu ferais un défi, enfin un tour du monde, quelque chose sans être capitaine?
Ah oui, bien sûr.
Ouais.
Ouais, avec plaisir. Ouais.
C'est pas un prérequis, quoi. C'est quelque
chose.
Ah
non. Si,
je trouve que c'est comme ça.
Si on me proposait quelque chose d'autre, s'il y avait un beau projet, je serais ravi d'être mousse. Mais de temps en temps, je suis mousse, là. J'aime bien aussi.
D'accord. Alors, sur ces 5 piliers, on a parlé donc d'oser la différence, de faire confiance. Quel est le troisième?
C'est innover grâce à la contrainte. C'est-à-dire, dans une équipe, avoir des gens persuadés que la création vient de la contrainte. C'est-à-dire avoir un état d'esprit pionnier. Dans une équipe, généralement, on se dit que c'est l'autre qui nous empêche d'aller vite. Hein, parce que l'autre pense différemment. Donc forcément, on doit argumenter. Forcément, ça prend plus de temps. Il y a un dicton qui dit « Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Ben, » c'est exactement ça. C'est la même chose. C'est de se dire que La difficulté de travailler en équipe avec des gens différents, la complexité que ça donne, ben c'est pas une barrière, c'est un tremplin.
Oui, c'est vraiment le principe du problème qui est la première étape vers la solution, quoi.
Exactement. Et ça, il y a deux types de réactions et deux types de personnes. Hein. Ceux qui se disent, ben voilà, c'est juste ça m'emmerde et je le fais pas. Ou soit, ben c'est une occasion extraordinaire d'évoluer. Sur le Vendée Globe. C'est très clair, hein. Vendée Globe, je prends cet exemple-là, c'est une course par élimination. Sur le Vendée Globe, on a un problème au moins tous les jours. Si c'est pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quoi. Et soit tu te dis, je vis un enfer, mon bateau m'en veut, j'y arriverai jamais. Et à ce moment-là, il y a peu de chances que tu termines la course. Soit tu te dis, c'est un fait de course. J'ai décidé de rentrer dans une aventure et tous les imprévus, toutes les galères, en fait, ça fait totalement partie de la course, au même titre que régler une voile. Et évidemment, sur le coup, tu sautes pas au plafond parce que t'es pas content d'avoir un problème, mais très vite, tu réagis en disant, ça fait intégralement partie de l'aventure.
J'ai dû voir quelque part ton histoire de safran, si je ne m'abuse, non? T'as dû scier un safran. Combien de temps ça t'a pris?
J'ai mis 11 heures.
C'est ça.
11 heures, ouais. J'avais 11 heures pour réparer, j'ai mis 11 heures.
Donc, ton safran était. Un safran, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça permet de diriger le bateau, c'est ce qu'il y a derrière. C'est le gouvernail, voilà. Ouais. Donc, il avait un problème, tu devais le changer. Donc, ça veut dire que tu as un safran de rechange dans ton bateau.
Ouais.
Et si je me souviens bien, tu avais une toute petite scie.
J'avais une petite scie à métaux, ouais.
Genre, c'est quoi qui faisait 20 cm de long.
Avec 10 lames, ouais, une scie à métaux qu'on a tous dans notre trousse à outils, hein, de la maison, quoi. Une scie à métaux,
le safran, il est en quoi? En bois?
Il est en carbone.
En carbone, ouais.
Ah, en carbone. Et en fait, comme il était à moitié cassé et il bougeait avec les vagues, donc je pouvais pas le scier, j'ai cassé toutes mes scies à métaux. Donc j'ai commencé à l'attaquer à la perceuse. Je sais pas quoi, à la fin comment j'ai réussi à l'enlever, mais je pense. J'ai mis 8 heures à l'enlever, hein. Et 3 heures pour mettre le safran de Sper. Mais ce qui a été extraordinaire dans cette expérience, c'est que 1000 fois j'ai voulu abandonner, quoi.
Mais c'est ça, c'est fou parce que c'est ce que tu dis, c'est juste là tu parles de cette expérience, ouais. de ces 11 heures.
Ouais.
Et ce qui est fou, c'est que c'est un fait de course, c'est-à-dire que ça reste un détail dans ton Vendée Globe.
Ouais.
Alors peut-être un des plus gros détails, mais encore. Moi, ce que je trouve fou, c'est que demain je fais un truc comme ça. Même toi, probablement, il y a 3 ans, j'imagine. Tu fais un truc comme ça, tu le racontes à tout le monde comme ta super aventure incroyable, tu t'es arraché, t'es allé jusqu'au bout. Là, c'est vraiment la goutte d'eau dans l'océan, quoi. Enfin.
Ben, en fait, ça a été une découverte quand même majeure pour moi parce que là, j'ai vraiment ressenti dans ma chair que on avait en nous des ressources infinies. Infinies. Et tous, on a des ressources infinies. La seule différence, c'est ceux qui vont les chercher ou pas. Et pour aller chercher ces ressources, il faut aller dans l'inconnu. Mmh. C'est dans l'inconnu qu'on se connaît. Donc, c'est pour ça que je me bats pour la différence. Hein. C'est pour ça que je dis aux gens, mais allez vers ceux et celles qui ne vous ressemblent pas. C'est là, comme ça, c'est dans cette relation-là que vous allez vous connaître et que vous allez être heureux. Parce que quand on rencontre ces ressources qu'on a en nous, waouh, le pic, quel bonheur.
Être heureux, j'allais dire quelle est la quête derrière tout ça, parce que, mais je pense qu'en effet, il y a du bonheur qu'on va chercher réellement.
Ben, quand on se découvre et quand on voit tout ce qu'on a de beau en nous, tout ce qu'on a de grand et fort en nous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme sensation. Ouais, c'est du bonheur.
Et du coup, c'est finalement lié à la question que j'avais après, mais je vais la poser juste après, parce que d'abord, quand tu fais des choses comme ça, par exemple, t'arrives au bord du gouffre, tu pleures.
Bien sûr.
Ouais. Mais parce que, en fait, moi, j'ai eu une fois une expérience. J'ai jamais fait de. J'essaie de faire des grandes courses de triathlon, de choses comme ça autour. J'ai fait une fois un trail qui était tellement dur qu'en redescendant, j'étais en Corse. Et à un moment. J'avais tellement mal partout, il restait pas grand chose, hein, c'était que de la descente, il devait rester 4 km, 3 km, je sais pas. Et je me suis assis, je voyais les gens qui passaient, qui me filaient à bouffer, qui étaient sympas, il y en a d'autres qui galéraient aussi. Je me disais, mais t'as quoi comme option? Tu pleures, tu t'arrêtes et tu continues. Et je me suis dit, bah, pleurer en fait, ça va servir à rien. Donc j'ai pas pleuré parce que ça servait à rien en fait. Je me suis dit, tu t'arrêtes, et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est pas une option parce qu'ils vont pas venir me chercher en hélico, donc, bon, bah, ok, tu continues, et tu continues. Et c'était super dur, et c'est vrai qu'il y a des moments où tu sens que ça monte, mais voilà, donc la question, c'est, est-ce que t'as pleuré? Est-ce que ça t'a fait du bien?
Bah, sur le Vendée Globe, hein, on pleure tous, hein. Ouais. On pleure tous énormément, on est tout seul face à ces problèmes, face à toutes les décisions. Donc on pleure beaucoup. Pendant l'histoire du safran, évidemment que j'ai pleuré. Enfin, quand j'ai vu le safran cassé, déjà je me suis fait une frousse énorme, parce que si le safran s'est cassé, c'est parce que le bateau s'est couché très violemment dans une tempête. Et pendant toute la journée, j'essayais, ça bougeait pas d'un centimètre, donc j'en pleurais. D'un autre côté, c'est un peu comme pour toi et ton trail. C'est que moi, personne n'allait me chercher.
Dans sa juste mesure, c'est ça, oui. Ouais.
Et donc, moi, j'étais au milieu de l'océan, dans l'océan austral, loin de toute terre. J'avais 11 heures parce que j'avais une tempête qui allait me tomber dessus. Quand on n'a pas de safran, c'est un peu comme si on faisait de la moto sans la route devant. Et quand on est dans une tempête, c'est comme si on était à 200 ou 300 km/h sur l'autoroute. Et là, il faut avoir deux roues, quoi. Et donc, il fallait vraiment que je répare avant que la tempête me tombe dessus. Donc, il y avait pas de question, en fait. Et il y avait l'instinct de survie qui était là. Il fallait absolument que j'aie ma deuxième roue de moto. Sinon, c'était dangereux pour moi. Donc, voilà, j'avais pas le choix. Il fallait. Donc, j'essayais. Ça marchait absolument pas. Je me posais. Je pleurais en me disant, mais j'y arriverai jamais. J'abandonne. Et puis, je mangeais deux cacahuètes. Et puis. Je retrouvais la force pour essayer à nouveau, puis que ça bouge pas, et puis repleurer, et puis voilà.
Et il y aurait eu quelqu'un qui t'aurais eu l'option de, alors t'avais l'option d'abandonner, mais c'est peut-être pas évidente, parce qu'en effet, comme tu le dis, il y a une tempête qui arrive sur ta gueule, il y aurait eu, pas cette tempête, ou une facilité d'abandon, t'aurais eu une terre à 20 km, tu crois que ça aurait peut-être changé tes décisions à ce moment-là, ou?
C'est possible. Je peux pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais quand même assez peur. Hein. À ce moment-là du Tour du Monde, moi, je me demande un peu ce que je fous là. Je regarde même avec envie certains qui abandonnent, en me disant, bah, ils peuvent partir la tête haute, parce que c'est tellement dur ce qu'on vit. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vécu l'aventure de ma vie. C'est fabuleux, mais c'est tellement dur. Faut se rendre compte à quel point on est misérable. Donc, je sais pas. Peut-être que j'aurais abandonné, effectivement.
Et les ressources, tu vas les chercher en toi à fond, à 99, 90%, je sais pas. Quelle est l'importance de ton staff à ce moment-là? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que, ouais, à ce moment-là, t'es vraiment complètement, t'es perdu, lost?
Elle est super importante. Ouais. À ce moment-là, moi, je suis en relation avec mon directeur technique, Mathieu Akbar, qui va m'envoyer toutes les strates de tous les points de l'opération à faire, à effectuer. Il y a une 25 ou 30 points à faire. Et donc, lui, il me permet de garder la tête froide, Il y a Fabienne Lemaignan aussi, qui est la directrice, la team manager du projet, qui m'en monte le moral.
Comme un seul homme qui nous a accueillis ce soir, cet après-midi et qu'on salue parce qu'elle m'a aidé à organiser tout ça. Merci Fabienne.
Ouais, merci Fabienne. Donc ces deux personnes-là, elles sont super importantes. Puis il y a tous ceux qui ont participé, il y a tous ceux... Je reparle de Sam Goodchild aussi, qui était proche de l'aventure. Il y a ma coach aussi. Toutes ces personnes-là, en fait, elles sont super importantes. Et c'est vrai que tu n'as pas envie d'abandonner pour eux. Après, tu es seul.
Ouais.
Tu es seul. Et c'est ce qui rend... quand ça marche, quand il y a la réussite, c'est extraordinaire. Parce que tu sais que tu as réussi seul. Et ça, c'est un tatouage que tu te fais sur la peau en disant « je suis capable de faire ça ». Et moi, c'est ce qui a changé aussi le Vendée. C'était que j'ai commencé à vraiment avoir confiance en moi en disant « ce que je viens de faire, c'est assez extraordinaire. Changer un safran dans les mers du Sud avec 4 mètres de creux, c'est pas mal ».
Oui, on n'a pas parlé des creux, on n'a pas parlé parce qu'il faut vraiment se mettre là-dedans. Hein. T'es pas sur une mer d'huile de la Méditerranée en plein été, tranquillement, en plein soleil, à scier ton petit truc derrière. T'as des énormes creux. T'es accroché, du coup ?
Non, je suis pas accroché parce que je suis dans le cockpit de mon bateau.
Ah, ok.
Mais je reçois des vagues énormes, même, à ce moment-là. Donc, je travaille à l'arrière de mon bateau. Je suis protégé. Je peux pas tomber à l'eau, mais en revanche, je suis ouvert à l'océan. Donc, je reçois des paquets de mer, quoi. Ce qui est compliqué quand on commence à attaquer à la perceuse, parce que la perceuse reçoit des tonnes d'eau. Donc, ça, à un moment, ça marche plus.
Et tu te coupes, tu fais des tas de choses, peut-être.
Non, je me suis pas coupé, mais je me suis mis plein de carbone, je me suis beaucoup dans les doigts, je me suis beaucoup abîmé les mains.
Ok. Tu t'es blessé sur ce Vendée Globe?
Non. Vers la fin, la dernière semaine qui a été assez éprouvante, parce qu'il y avait plusieurs. J'ai eu une semaine de tempête sans arrêt. Mais je me suis twisté les deux genoux parce que j'avais plus après 99 jours de mer, j'avais plus tellement de muscles dans les jambes. Donc là, je me suis fait des entorses aux genoux, quoi.
D'accord. Et tout ça, c'est vrai que c'est toutes ces choses à gérer qui sont infernales. Si j'ai bien compris, donc la particularité de ton projet, c'est quand même t'avais fait en solitaire 4-5 jours avant de faire le Vendée Globe au maximum tout seul, c'est ça ?
J'ai fait 2 fois 6 jours de navigation, mais j'avais jamais navigué en solitaire auparavant.
Donc 2 fois 6 jours, basta.
J'ai malheureusement pas le temps de faire plus et pas de possibilité de faire plus. Et j'aurais bien aimé faire plus parce que pendant tout le Vendée Globe, en fait, tout était découverte. Et c'est compliqué de découvrir des choses tout seul. Alors j'avais été bien entouré. Donc j'avais déjà navigué en double, puis en équipe, mais seul, tout était découverte. Et c'est vrai que ça, c'est le poids de la solitude sur une aventure comme ça, c'est que comme tout est nouveau, et quand on essaie de faire quelque chose, on est toujours en train de se dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et on adorerait qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ouais, t'as raison, c'est la bonne solution ce que t'as choisi, ou quelqu'un qui dise non, on n'y va pas, ça c'est vraiment très con. Mais donc voilà, c'était comme ça, et puis c'est vrai que c'est beau qu'en suivant ces principes d'action, ça marche encore une fois, quoi. Qu'en n'ayant jamais fait de solitaire, on puisse arriver premier bisu du Vendée Globe, juste en respectant des principes d'action et juste en allant faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avec des clés, quoi.
Oui, parce que, et en plus, tu découvres, c'est comme tu le dis. C'est-à-dire que j'imagine que sur des choses comme, peut-être pas l'alimentation, mais au moins le côté psycho, clairement, le sommeil aussi, des choses comme ça. Quand t'es à deux, tu peux dormir un peu plus, quoi, j'imagine. Là, c'est quoi ton sommeil?
Sur le Vendée Globe, j'ai dormi 4h30 par 24 heures.
Mais
en moyenne.
Mais en combien de fois?
Fractionné, c'est en 5-6 fois, quoi.
Donc, voilà. Tu fais des nuits de 40 minutes.
Ouais, c'est ça. C'est entre 20 minutes et ça peut aller jusqu'à 2 heures max, quoi.
Et tu te réveilles, tu programmes tes réveils ou tu te réveilles parce que juste ça bastonne dans tous les
sens? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai commencé en essayant de faire un peu comme ce que j'avais entendu de la part des autres marins. Donc, je me mettais des réveils. Et en fait, ça marchait pas avec moi parce que j'arrivais pas à trouver mon sommeil, j'arrivais pas à trouver mon rythme. Et il y a un moment où vraiment j'ai décidé d'arrêter de suivre un peu les autres et de me dire non, ce qui compte, c'est toi. Donc, tu vas apprendre à te connaître, toi. Et donc, j'ai arrêté de mettre des réveils. J'ai arrêté de regarder mon ordinateur. J'ai arrêté des choses comme ça. Et je me suis écouté. Et quand j'étais fatigué, je dormais. Quand j'étais pas fatigué, je continuais de naviguer. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de trouver mon rythme et d'accélérer.
Et il y a aussi des moments où tu es fatigué, où tu ne peux pas dormir.
Ah, il y a des moments où tu es extrêmement fatigué et le bateau te demande d'être là parce que tu es en tempête et tu ne peux pas dormir. Et il y a effectivement un moment qui est horrible et c'est toujours la crainte que tu as, c'est plus tu es fatigué, plus tu es stressé et moins tu arrives à trouver le sommeil et tu te retrouves dans un cercle infernal où tu es explosé de fatigue mais tu peux pas fermer l'œil et là tu as vraiment peur.
Et malgré tout, alors tu vas me dire, peut-être que tu le faisais, je pense pas que tu vas me dire ça, mais pour les vidéos, mais quand on regarde, on tape, je vous invite nos auditeurs à le faire, mais Eric Bélion sur Google ou Bing ou plein d'autres moteurs de recherche, on voit des vidéos et notamment on le voit quand même kiffer, enfin vraiment super heureux à plein de moments. T'éclater, etc. Tu fais pas ça pour les médias. Enfin, je veux dire, tu avais une belle sono, j'ai l'impression. T'as pris ton pied pas tout le long, mais il y avait plein de moments durs. Mais t'as pris ton pied vraiment à plein de moments.
Mais j'ai adoré cette aventure. J'ai pris mon pied grave. Il y a eu des moments, mais extrêmement difficiles. Les moments difficiles sont peut-être plus nombreux que les moments de kiff. Maintenant, hein, le moment de bonheur, il irradie tellement qu'il couvre tout le reste. Et donc, ouais, effectivement, il y a quelques vidéos que j'ai fait pour les passages importants, les passages des caps, qui sont, c'est un peu comme si on arrivait au sommet d'une montagne.
Il a l'air tellement authentique à chaque fois, ce bonheur que tu as, ou cette vidéo de Noël, etc.
Ça se calcule pas. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on a envie de partager. Il y a pas de marketing derrière. Moi, j'en fais pas. J'ai pas de plan de carrière.
J'avais
pas de sponsor qui me demandait de communiquer. J'avais des 14 super mécènes qui me demandaient rien à part pousser la cause et faire le mieux possible. Tu vis des bonheurs, mais absolus en mer.
Et du coup, tout ça, c'est paradoxal parce que on dit souvent que dans le bateau, quand tu pars notamment avec des amis, si tu prends un bateau pour les vacances ou quand tu fais l'enfer, c'est les autres en fait. Alors j'ai l'impression que t'as vécu ça déjà sur ton défi intégration. Alors peut-être pas sur le bateau à la fois, c'est ce que tu disais. Je sais pas si tu l'as déjà vécu sur un bateau. Est-ce que tu crois qu'il y a un moment où quand tu pars tout seul comme ça, l'enfer ça peut être soi-même pour certains ou...
Déjà, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que la mer, c'est un laboratoire extraordinaire pour l'humain. C'est-à-dire que, c'est ce que tu dis, hein, c'est que la mer, soit elle explose une équipe, soit elle la soude à jamais. Et donc, moi, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que sur la mer, on ne peut pas se cacher derrière des idées bien pensantes, derrière de l'angélisme, ça marche ou ça ne marche pas. Tu es dans le cœur d'une tempête, tu vas te coucher parce que t'es crevé, la personne à qui tu confies la barre, donc à qui tu confies ta vie, tu t'en fous qu'elle soit femme, homme, vieux, jeune, noir, jaune, handicapé, valide, etc. T'as juste besoin d'avoir confiance en elle. Mmh. Et donc ça m'intéresse parce que y a rien de pire que les idées bien pensantes et l'angélisme. Donc ça vaut pour une équipe, ça vaut aussi pour soi. Et quand on est en solitaire sur le vent des globes, il y a nulle part où se cacher. Quand on est en équipe, quand on est skipper, quand y a un truc à faire, je sais pas, une manœuvre précise, que tu sens pas trop, ou par exemple monter au mât, on va dire. On a des mâts qui font 30 mètres de haut. Quand tu dois monter au mât, et que tu as peur de monter au mât, parce que ça fait peur, tu as toujours moyen de dire, je vais demander à un équipier ou une équipière de monter au mât. Et tu peux t'auto-persuader en disant, je pourrais le faire, mais je fais du management, en gros, et je propose à l'autre de monter. Tu peux t'auto-persuader ça. Quand tu es seul, c'est impossible. Tu es obligé d'aller voir tous tes démons, un par un, et de toute façon, tu dois tout faire. Donc, c'est impossible de se cacher derrière, de se mentir à soi-même. Donc, c'est là où, effectivement, tu es obligé d'aller faire tes démons, d'aller voir tes démons. Et moi, ça a été extrêmement violent. Hein. Ça m'a mis un mois, un peu plus d'un mois. Et je suis allé très, très loin là-dedans. Très, très loin, jusqu'à aller au bout du bout et à me dire est-ce que je vais pas abandonner parce que je sais pas si j'ai les épaules pour faire ça. Et il y a un moment, j'ai décidé que j'aurais les épaules et que j'allais voir et... J'ai pris une décision pour ma vie d'homme qui a tout changé, quoi.
Et qui est un avant-après. Je veux dire, une fois que tu l'as prise cette décision, jamais après tu t'es reposé la question.
Si. Si, bien sûr.
La bonne réponse aurait été non.
Bah ouais, non, mais je suis pas là pour donner des bonnes réponses. Mais c'est plus compliqué que ça, quoi. C'était la première action qui a permis à la fin que je me pose plus de questions. Parce que c'est jamais, tu passes pas du noir au blanc. Mmh. Il y a toujours une transition grise.
Dans les films, ça.
Décider d'aller dans les mers du Sud, moi, c'est là le moment où ça s'est passé. Ça m'a permis d'avoir l'essor de mon safran, de changer mon safran, de prendre plus confiance et après de rentrer dans une tempête importante que j'ai décidé d'aller affronter et de voir que je pouvais faire confiance dans mon bateau. Et ces trois choses m'ont permis de lâcher, d'accepter de rentrer dans l'aventure et de commencer à accélérer comme un fou et de doubler tous mes petits copains, quoi, et de faire le résultat que j'ai fait.
Parce qu'avant, t'étais pas à fond.
Ah non.
Et tu mettais le frein. Enfin, c'était volontaire ou c'était involontaire?
Ah non, c'était volontaire. J'avais peur. J'avais peur. Je bridais mon bateau. Je sentais que mon bateau, il voulait accélérer comme un fou, mais moi, j'avais peur parce que j'avais pas confiance en moi. Donc, je pouvais pas avoir confiance dans mon bateau. C'était impossible parce que moi, je me sentais pas capable de récupérer s'il y avait un problème.
Et le premier, donc, enfin, les premiers, j'imagine, eux, ils sont à fond.
Ouais.
100% de A à Z.
Ouais, tout de suite, ils sont à fond, ouais. Et plus ils sont à fond, plus ils vont vite. Et après, chacun pousse le délire.
Il y en a en revanche qui gardent le frein tout le long, quoi, à peu près.
Enfin, oui, ouais, okay. Bien sûr.
Ouais. Et ça, tu crois que tu l'as... Enfin, évidemment, tu te reposeras des questions, mais je veux dire, si toi, demain, tu repartais là-dessus, tu dirais, là, cette fois-ci, que tu partirais à fond.
Je partirais à fond, mais en fait, je partirais toujours avec le même principe, en élevant la difficulté, en élevant mon exigence. Mmh. Moi, quand je pars sur une aventure, je me fous de l'objectif. L'objectif ne m'intéresse pas. Quand je suis parti sur le Vendée Globe, de nombreux journalistes m'ont demandé quel était mon objectif de résultat, devant qui je voulais arriver, après qui. Enfin, c'était vraiment leur grande question, et moi, à chaque fois, je leur répondais la même chose, c'était que je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une harmonie entre la mer et mon bateau. Et je savais que si j'obtenais cette harmonie, forcément, j'allais avoir une performance importante. Et forcément, si je sentais cette harmonie, j'irais très, très vite. Mais c'est super compliqué à atteindre cette harmonie-là. Moi, ça m'a mis un mois et demi pour l'atteindre. Mais à partir du moment où tu l'as, waouh!
Sachant que c'est un mois et demi, mais... C'est spécial parce que c'est un mois et demi en accéléré. C'est-à-dire que c'est du full time.
C'est 24-7.
Voilà, c'est ça, 24-7. Ouais. C'est pas, je veux dire, si tu devais le projeter dans d'autres sports ou d'autres activités sur lesquelles tu y mets 3 heures par jour ou 7 heures par jour, voilà, il faudrait quand même un peu plus de temps.
Il faudra des années. Ouais. Ouais.
Ça, c'est non, mais sûr. On dit, certaines théories disent que pour masteriser un sujet, il faut... mais je crois que c'est pour arriver à 80% de maîtrise, il faut entre 300 et 400 heures de travail. Et après, pour arriver à 100, en l'occurrence, c'est beaucoup plus généralement de travail.
Ah ouais, bien sûr. Pour atteindre la maîtrise de la technique.
Ouais.
Ah ouais.
Mais après, il y a la maîtrise de...
C'est pas le principe des 10 000 heures, je sais.
Possible.
Mais je sais plus.
Je regarderai pour les notes.
Ouais.
Allez, on a fait 3 piliers, il nous en reste 2. Et puis en plus, quelques défis que tu nous as pas racontés encore, mais j'imagine qu'on les a plus ou moins quand même. Oser la différence, faire confiance, innover grâce à la contrainte.
Viser la performance collective.
D'accord.
C'est-à-dire, une des grandes découvertes de toutes ces aventures, c'est que pour avoir de la performance, faut pas viser la performance. Faut viser l'harmonie. C'est ce dont on parlait. C'est-à-dire que si on vise l'objectif et une performance, on va se crisper, on va se comparer, on va rater le plus important qui est de se découvrir. Et ça marche pour soi ou en équipe. Et d'essayer de travailler au maximum de ses possibilités. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre toute son attention. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on a cette harmonie, eh ben, la performance est au rendez-vous. Et l'objectif, il n'est pas atteint, il est explosé. Donc, c'est ça. Viser la performance, viser l'harmonie. Quatrième principe d'action.
Et ce qui alors, Je sais pas dans quelle mesure tu vas nous le dire, mais tu en parles justement autour de toi, mais on suit tout ça. Je pense que c'est très applicable à beaucoup d'entreprises aussi, tout ça. C'est-à-dire que la performance collective qu'on oublie souvent en isolant pas mal des services d'un côté, d'autre, en mettant en avant certains, en cachant les autres. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Et donc le cinquième pilier?
Bah, c'est le bonheur. C'est exulter ensemble, en équipe. C'est le cinquième pilier, c'est en même temps la résultante de tout. Et ce qui permet aussi d'amorcer le fait de, à nouveau, oser la différence. Moi, aujourd'hui, je carbure à la différence. C'est-à-dire que pour être heureux, à chaque fois qu'il y a une voie qui n'est pas expérimentée, bah, c'est celle que je tente. À chaque fois que je vois quelqu'un de louche, bah, je m'en approche et j'essaie de comprendre en quoi cette personne peut partager avec moi des fondamentaux, des choses importantes. Et c'est parce que je sais que c'est le fait d'être le plus différent de moi qui va m'apporter, qui va me rendre plus innovant, plus heureux et qui va me permettre de réussir mes défis.
On peut parler de zone de confort également un peu.
C'est sortir de sa zone de confort. Ouais. On parlait de Fabienne qui nous a accueillis tout à l'heure, qui est la directrice de Comme un seul homme. Ben, Fabienne, quand je l'ai recrutée, c'est à peine si elle connaissait l'avant de l'arrière d'un bateau. Et quand généralement une équipe de Vendée Globe recrute un team manager, je dis un parce que généralement c'est un homme, et c'est quelqu'un qui a déjà fait le Vendée Globe ou qui est un grand coureur. Et moi, Fabienne, le fait qu'elle ait pas fait de la voile, ça me dérangeait pas. En revanche, je voyais qu'on partageait énormément de choses très fortes ensemble. On est extrêmement complémentaires. Et c'est ça ce qui m'intéressait. Et donc, c'est toujours accepter de se faire quelques cheveux blancs, parce que le moment de la découverte, la prise de risque est flippante. Mais à partir du moment où on fait de plus en plus ces choix-là, eh ben on commence à se roder, on commence à développer de l'instinct, et ça devient extraordinaire. Moi, c'est ma cam, quoi.
Oui, il y a pas mal de choses aussi aujourd'hui, mais dans les affaires, on voit souvent que je dis les affaires, ça peut paraître grossier par rapport à tout ça, mais c'est pas le cas. Je veux dire dans les aventures entrepreneurial, pour être presque plus précis, on dit que souvent faut chercher plutôt un profil qu'une technique, qu'une maîtrise. Et moi, j'avoue que j'essaye de plus en plus d'appliquer ça parce qu'on voit quand il y a un très bon fit de personnes, quand on s'entend très bien avec les personnes et qu'on sent que la personne a un état d'esprit, une motivation, finalement, on a des résultats beaucoup plus enfin, on arrive à un endroit qui est beaucoup plus intéressant que juste sur de la technique, en fait.
Je suis complètement d'accord. Et il faut pas oublier de dire que c'est beaucoup plus difficile.
C'est ça.
C'est beaucoup plus compliqué et ambitieux. Et le résultat dépasse toute espérance. Mais il faut accepter de souffrir un peu. Quand on n'a pas les codes, c'est super compliqué.
On a eu deux recrutements récemment qui sont exactement sur ce profil chez Cosa Vostra. Et j'ai dit exactement ce que tu viens de me dire à un de mes collaborateurs. Je lui ai dit, écoute, tu veux cette personne? Vas-y. Ça va être beaucoup plus dur, mais moi, je crois que tu fais un bon choix. Mais vas-y, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui recrute dans son équipe. Mais je trouve ça, en effet, je suis certain que c'est un bon choix. Je vais rebondir sur deux petites choses que tu as pu nous dire depuis tout à l'heure. Tu nous parles de coach. Alors, le coach, c'est quelqu'un qui je trouve, dans notre société, à la fois prend de plus en plus de place, c'est-à-dire qu'on en voit de plus en plus. Je connais plusieurs coachs, donc des gens autour de moi qui ont notamment arrêté de travailler dans des grandes entreprises ou voilà pour devenir coach, et tout le monde les regarde en se disant... Enfin, ça fait un peu à la fois gourou, à la fois, et voilà, et c'est ce que je voulais dire. À la fois, il y en a de plus en plus, et à la fois, on garde toujours le coach en se disant, mais, enfin, moi, la première fois qu'on m'a proposé de me faire un coaching, j'ai regardé la personne, j'ai dit, et d'ailleurs, pire encore, mes associés, quand je leur ai dit, ils voudraient me faire un coaching, ils m'ont dit, non, mais toi, t'as tellement pas besoin d'être coaché, quoi. Et quand je te vois, toi, avec tout ce que t'as fait, tu l'as évoqué déjà plusieurs fois derrière, depuis qu'on parle tout à l'heure, est-ce que tu peux me raconter un peu l'importance du coach, qui c'est, comment ça se passe, est-ce que tu pourrais faire sans?
Ouais, bien sûr. Alors, moi, je me suis fait accompagner par une coach qui s'appelle Lydie Lemaire. C'est une coach qui a un aspect psy. Pour moi, ce travail avec ce coach a été particulièrement important parce que c'est un coach qui permet aux équipes de communiquer et de se connaître. Donc c'est là-dessus que c'est super important. C'est le fait de mettre le doigt sur vraiment justement les fondamentaux, mettre les doigts sur les fragilités, mettre le doigt sur en fait si la personne coïncide avec ce que tu veux faire. Il y a le pire poison des équipes, c'est la rivalité. C'est les rivalités. À partir du moment où on parie sur les différences, déjà on diminue les rivalités. Mais la meilleure façon de faire la nique à ces rivalités, c'est de se parler, c'est de se dire ses fragilités, c'est de se rencontrer en tant qu'homme et femme. Quand dans la voile, il y a beaucoup d'ego, comme dans beaucoup de niveaux, de beaucoup de sports ou beaucoup dans beaucoup de choses. J'imagine que deux égos sur un bateau, on veut démontrer des choses, on peut très vite rentrer dans une démonstration à l'autre qu'on est le plus fort, on a moins peur. Je sais pas, par exemple, le vent monte sur le bateau, on se doit se dire, tiens, moi, je réduirais bien la toile, mais je vais pas montrer à l'autre que j'ai peur. Donc, je vais garder le maximum de toile. Et puis, si l'autre arrive, je vais lui montrer combien je suis un mec costaud et qui a pas peur, il va bien être impressionné. Et puis, on fait un mauvais cadeau à celui qui se réveille, qui va prendre le quart parce qu'il retrouve le bateau qui est très puissant, avec beaucoup de toile. Alors que la sagesse pour réussir le projet commun, c'était de réduire la toile pour avoir rien à démontrer. Et c'est pour ça que moi, je pense que le travail avec un coach est super important parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les rencontres entre... Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le fait de se débarrasser du superficiel, du visible, pour rentrer dans le fondamental qui est invisible.
Et le coach, c'était le coach de l'équipe ou ton coach à toi ?
C'est mon coach qui est devenu le coach de l'équipe.
D'accord. Donc, qui a parlé avec tout le monde, qui rencontre tout le monde quand même, ouais. Qui doit connaître chaque individualité et après devenir une sorte de...
On a fait ce travail-là avec les cadres de l'équipe. Tout
d'accord.
À fait. Et j'aurais bien aimé le faire avec toute l'équipe, mais on manquait malheureusement de temps. Et j'ai aussi travaillé avec les coachs de la Marine nationale aussi pour du recrutement sur la troisième aventure qui s'appelle Team Jolokia. Et eux, ils nous ont beaucoup aidés sur l'aspect recrutement. Team Jolokia.
D'accord.
C'est un bateau qui navigue toujours, qui a un équipage qui est l'équipage de la différence. Donc, ils font des recrutements tous les ans d'équipiers hommes et femmes, valides, handicapés. Le but, c'est de montrer que la différence est une force. Et que cette différence peut sortir la performance. Et donc, on a travaillé avec les psychologues de la Marine nationale et c'était absolument passionnant. Parce qu'au début, recruter justement des personnes différentes mais qui ont le même fondamental, c'est facile à dire, mais à faire, waouh, super compliqué. Et moi, j'ai vu que dans mes recrutements, il ne fallait absolument pas que j'utilise mon instinct parce que à chaque fois qu'une personne était vraiment différente de moi, j'avais aucune envie de la recruter parce que je trouvais que cette personne était louche. Parce qu'elle ne me ressemble pas. Et à chaque fois, je voyais le danger arriver parce que on est tous pareils, on a envie de se rassurer, donc on a envie de recruter des clones visuellement. Donc des gens qui ont le même âge ou la même CSP ou le même diplôme. On essaie de se rassurer par tous les moments, par tous les moyens. Et la Marine nationale, c'est une institution qui recrute dans tous les strates de la société des gens donc complètement différents et qui recrutent justement des potentiels ou des profils qui peuvent vivre ensemble dans des endroits plutôt anxiogènes, quoi, des sous-marins, des bateaux de guerre.
Et
donc, ils ont un super savoir-faire là-dessus. Et moi, ils m'ont permis justement de voir vraiment le fondamental en me disant, telle personne, j'ai un exemple, j'ai l'exemple de Benoît qui a été équipier avec moi sur Team Jolokia. Benoît, il vient de Montreuil, pas des quartiers bobos de Montreuil, des quartiers plutôt... chaud de Montreuil. Et quand je l'ai vu débarquer avec cette tête rasée, hyper agressif, moi, le petit gars de Versailles, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec un gars pareil ? Il a l'air motivé, mais moi, en termes de management, il me faisait peur, quoi. Et il est passé par un entretien psy avec les psychologues de la Marine nationale, par des tests en équipe, et les officiers, les psys de la Marine nous ont dit non, ce gars-là, c'est cohérent avec son travail d'adulte. Enfin, le fait d'intégrer Team Jolokia, c'est parfaitement cohérent. Il a les capacités pour le faire. Et j'ai fait confiance aux psychologues de la Marine. Et en fait, à partir du moment où lui s'est retrouvé dans un univers qui faisait 50% du chemin, c'est-à-dire qu'en lui faisant confiance, en lui disant ben, t'as ta place à bord, etc., lui a fait les 50% différents. Mmh. Et on s'est retrouvé en fait avec le médiateur de l'équipe. Ce gars-là, il avait ça en lui. Il a trouvé un poste au bateau qui est le poste de piano, hein, qui est un poste en fait qui distribue les manœuvres à l'avant, donc qui est le lien entre la cellule arrière, du barreur, du stratège, et puis des équipiers d'avant. Et c'est devenu vraiment le médiateur de l'équipe. Et j'ai plusieurs anecdotes où on a évité une bonne bagarre à bord grâce à lui. Donc comme ça, on a tous des idées préconçues. On a besoin de personnes comme ces coachs-là qui ont ce savoir-faire-là et pour permettre de travailler là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont du coup quand même un double rôle là-dedans. C'est qu'ils ont le rôle de comprendre et de voir que Benoît avait la possibilité de venir sur le bateau, donc il était cohérent dans sa démarche,
ouais.
Mais aussi le rôle de le dire, parce que je veux dire, il aurait pu avoir ce, tu l'as un peu dit, hein, quand tu disais une fois qu'on avait fait l'effort vers lui, il a fait les 50% restants, mais peut-être que toi dans ta démarche, si on te l'avait collé, sans que personne t'ait dit c'est bon, lui tu peux y aller, il y a un moment il te donne quand même un coup de tampon quoi sur Benoît, tu vois.
C'est vrai, tout à fait. Et c'est le coup de tampon que j'attends aussi.
Du coach.
Mais je pense que c'est la démarche qu'on devrait avoir dans les entreprises, c'est justement, développer ça. Et au fur et à mesure, on voit que on a de moins en moins besoin de coach parce qu'on développe ça. On commence à comprendre, mais tu as tout à fait raison. C'est qu'on a besoin d'être aidé. Parce que naturellement, on va vers ce qui nous rassure, donc on va pas vers la différence. Ouais. Donc on va vers quelque chose qui va pas nous aider à être innovant, va pas nous aider à réussir et va pas nous aider à être heureux, quoi. Et va pousser la rivalité, parce que plus t'as des clones dans l'équipe, plus t'as des gens qui se marchent dessus et plus t'as de rivalité et moins l'équipe travaille bien.
Ouais, c'est marrant. Et donc tout ça, on voit un peu comme chaque entreprise. C'est comme si t'avais été passé dans différentes entreprises, on a l'impression qu'à chaque fois c'est quand même un peu accéléré, hein. L'apprentissage, en comparaison de fait, quoi, quand tu te retrouves avec des gens comme ça, que ce soit, quand je dis comme ça, c'est par contrainte, hein, que ce soit Benoît ou des gens handicapés, c'est vraiment en plus un moment, enfin par contrainte, tu te retrouves avec eux, de toute façon, t'es obligé de rester avec eux parce que t'es dans une course et tu le dis, il y a des bastons potentiellement à bord, il y a des choses, et c'est compliqué, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il y a une vitesse d'apprentissage qui est peut-être accélérée, je sais pas ce que...
Sûrement, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la mère qui interdit la bien-pensance et l'angélisme. Donc ça marche bien dans l'entreprise qui ne peut pas se permettre en fait de cet angélisme et cette bien-pensance.
T'as fait une école de commerce, toi, hein?
Ouais.
Une grande école de commerce.
Ouais, une belle école, ouais. L'EM Lyon.
Ouais. D'accord. Et t'as travaillé en entreprise?
J'ai travaillé 2 ans dans une SS2I, ouais.
D'accord. Très bien. Et c'était bien, on peut la citer ou tu vas la dégommer.
Non, c'était des gens très bien et c'est toujours des gens très bien. Et c'est la société Devoteam.
Ah, Devoteam, très bien, ouais. En effet, qui est très innovante, qui fait des choses. Je lis des choses sur Devoteam et notamment sur l'innovation, qui a des choses qui m'inspirent sur le côté startup. En effet, qui devait être pas très grande à l'époque du coup.
J'étais vraiment au début. Depuis, ça a bien grossi, ouais. Après, je leur en veux un peu parce qu'ils m'ont pas encore suivi en tant que mécène sur mes aventures.
Alors, on va arrêter de citer le nom de Devoteam.
Il y a une société en ce moment, Intitech, Crépia, qui m'accompagne. Donc,
Très bien. Ils l'entendront. Et du coup, donc 2 ans, tu as travaillé en entreprise. Versailles, chemin Versailles. Tu le dis, c'est marrant parce que tu l'as dit plusieurs fois. On a l'impression que tu as fait un chemin là-dessus parce que, comme si c'était un. Alors c'est pas, évidemment c'est pas un boulet de grandir à Versailles, ça peut l'être dans certains milieux peut-être, mais surtout dans la voile, c'est pas forcément mais quand même c'est quelque chose où on sent que voilà, tu l'as précisé deux fois, le Versaillais, c'est comme il y a Versailles, Neuilly, c'est très marqué quand même.
Bah quand tu dis Versailles, tout le monde comprend, ouais.
Ouais.
Ouais, je sais pas quelle est
la
question.
La question, c'est le chemin, c'est quoi, tout ce goût de l'aventure, c'est tes parents, c'est ça s'est fait tout seul, c'est la lecture, tu disais. Comment tu passes de, en effet, Éric Bellion à Versailles jusqu'à Éric Bellion en train de scier son petit safran, son gros safran. C'est quoi le chemin?
Ah bah le chemin est tortueux. Hein. Il y a plusieurs choses qui ont été déterminantes. Effectivement, il y a la rêverie, la lecture, qui m'a donné une soif d'aventure et une envie de découverte d'un certain état de grâce que j'ai atteint plusieurs fois. Mais ça, c'est vrai que c'est le Éric romantique, on va dire. Et puis, l'aspect différence, c'est un cadeau de mon père. Mon père est bègue. Alors tu l'entends pas parce qu'il parle comme toi et moi, mais il le fait en contrôle. En revanche, il m'a toujours raconté quand j'étais plus petit le regard des autres, le poids du regard des autres, et en fait j'ai développé grâce à lui, peut-être. À l'insu de son plein gré, à l'insu de lui, mais j'ai développé grâce à ça une aversion pour les cases.
D'accord.
Donc, quand on m'a proposé un tour du monde, j'ai eu envie d'aller faire ce tour du monde-là. J'ai découvert qu'il y avait des choses différentes de Versailles, différentes du milieu bourgeois dans lequel j'évoluais. J'ai découvert le monde, j'ai adoré ça et j'ai voulu le connaître.
C'est marrant parce que du coup, t'as l'aversion pour la case Versailles. Finalement, t'as peut-être aussi, dans tout ça, une forme d'aversion pour la case M. Lyon. Enfin, je veux dire, à un moment, tu t'es dit, quand tu sors de certaines grandes écoles, pour beaucoup, le chemin est tout tracé, quoi. Encore hier, un de mes potes, je vais pas le citer, même si ça le ferait marrer, mais quand même, je vais pas le faire, qui me parlait, t'es allé à un mariage HEC. Ah là là, les mariages HEC, genre comme si c'était le mythe de deux HEC qui se marient, et voilà. Et pourtant, bon, il y a plein de choses très bien dans toutes ces écoles, hein, d'excellence. Et moi, en plus, j'y participe d'une manière ou d'une autre. Je suis coach, prof, voilà. Donc, je peux pas dire le contraire, mais c'est vrai que, on a l'impression que t'es un peu aussi sorti de cette case, quoi. Te dire à chaque fois que t'es dans une case, alors c'est sortir de ta zone de confort. On revient toujours à ça, hein. Mais
alors, moi, j'ai aucune aversion pour Versailles ou mon école de commerce ou les écoles de commerce en général. Moi, j'ai vécu une belle enfance à Versailles. Je remercie mes parents pour ça. Je me suis fait plein d'amis. Mon école, elle m'a super bien formé. Elle m'accompagne encore en plus, c'est que des gens super. Ce qui me chagrine dans c'est la seule chose, c'est le manque de diversité.
Mais j'ai peut-être dit aversion, je voulais pas dire ça. En tout cas, je voulais dire sortir des cases. Hein.
D'accord.
C'est plus ça, c'est-à-dire se dire. Et c'est vrai que moi, je peux comprendre ça. C'est dérangeant de se dire. En fait, je suis là-dedans, tout le monde s'attend à ce que je fasse ça, soldat, et je continue.
Je comprends mieux.
Et j'ai l'impression que t'as toujours essayé de ressortir de ce truc-là.
Ouais. Je vis toujours avec beaucoup de mal le fait qu'on me mette dans une case. Je supporte pas qu'on me dise, par exemple, quand je faisais beaucoup de projets d'aventure avec des personnes handicapées, on me qualifiait de Eric, le capitaine au grand cœur, capitaine de la diversité. Je déteste ça.
Donc la prochaine fois que je te vois, tu te présenteras plus comme navigateur. Quoi,
peut-être.
Peut-être. Et d'accord. Et donc le premier tour du monde, j'aime bien comprendre sur le tout premier, c'est quoi l'élément déclencheur, comment tu le finances, il y a toujours ce moment dans nos vies où on parlait d'avant-après sur ce moment du Vendée Globe, mais souvent une vie d'entrepreneur ou de gens qui se lancent comme ça, où finalement, il y a un jour où on se dit, bon, allez, je teste ça, je vais quitter Devoteam, je vais faire ça, il faut trouver du pognon, il faut croire. Et ce qui m'intéresse vraiment, ce que je cherche à comprendre, hein, ici, sur ce podcast, c'est se dire, Je crois qu'il n'y a pas de recette du succès parce que on voit que tous les succès sont très différents dans les gens que je rencontre. On l'entend en tout cas. Il y a des recettes de l'échec, probablement un petit peu. Il y a surtout, en revanche, des leçons de l'échec qui m'intéressent particulièrement. Mais est-ce que tu peux me raconter comment, qu'est-ce qui s'est passé chez Devoteam, qu'est-ce qui se passe à un moment dans la tête d'Eric à 23 ans, 24 ans?
Non, mais moi j'avais un fantasme dans ma tête qui était de faire le tour du monde à la voile. C'était un rêve que je pensais jamais réaliser.
Et tu faisais de la voile déjà?
Je faisais un petit peu de voile, mais rien de tout ça, quoi. Mais j'avais ce fantasme-là qui vient de mes lectures. Et il se trouve que pendant mes études, j'ai rencontré deux copains, Hervé et Brice, qui avaient ce fantasme aussi. Et c'est la magie des rencontres, c'est que tout devient possible. Et donc, on est parti sur cette aventure-là. Et en rentrant chez Devoteam, je savais que je partirais faire le tour du monde. Donc voilà. Et ce tour du monde-là, très vite, il m'a fait peur hein, aussi. Mais mes parents n'étaient absolument pas pour. Je me suis fait convoquer à la table de la cuisine, là où tout se passe, la table de la cuisine. Convoquer à la table de la cuisine pour que mes parents me disent que je faisais l'erreur de ma vie. Mon patron m'a dit que je faisais l'erreur de ma vie. Donc ça fait peur tout ça, de tout plaquer. La société déteste ça. Elle vous fait payer l'année d'après vos impôts sur ce que vous avez gagné l'année d'avant. C'est bien pour vous garder dans le système. Donc tout ça, ça fait très peur. Et
on a failli changer ce système et ouais. On a été rattrapé. Hein.
Ça aurait été bien.
Le prélèvement à la source, ouais.
Mais donc on est coincé quelque part et c'est vrai que tout ce qui sort de la norme fait peur. Mais moi, il fallait absolument que je sorte et j'ai ressenti ça très fort, c'était en moi. Donc on a monté ça avec Hervé et Brice, on a financé en travaillant notre tour du monde. Après toute la venue des jeunes sur
donc en travaillant chez Devoteam d'accord très bien donc tu mettais de l'argent de côté voilà. Tu disais c'est l'objectif
on vivait dans final. Un petit appart on dépensait rien et on mettait tout dans le bateau
c'était le projet quoi je veux dire ouais. tu te dis pas en rentrant là-bas je vais faire ça peut-être dans 2 ans ou quoi non vous êtes tous les trois vous vivez tous les trois donc
ouais enfin on vit à deux et puis ouais. Harvey est souvent là mais c'était l'objectif principal ouais. Donc, on se concentrait là-dessus. Après, on a monté, ça n'existait pas à l'époque, mais on a monté un crowdfunding avant l'heure. D'accord. C'est-à-dire qu'on voulait en sorte que les 45 jeunes handicapés nous rejoignent sur des escales. Et on n'avait pas d'argent pour ça. Donc, on a monté une course virtuelle sur Internet entre notre bateau qui avançait avec le vent et un bateau virtuel qui avançait avec des euros.
D'accord.
À chaque fois que quelqu'un mettait un euro, le bateau faisait 1 000 nautiques. Mmh. Le parcours faisait 50 000 nautiques. Autour du monde et en fait on s'est fait battre à plate couture puisque nous on a fait une fois le tour du monde on a fait 50 000 milles nautiques et le bateau virtuel a fait une fois le tour du monde, deux fois le tour du monde et trois fois le tour du monde. Il y a eu un engouement extraordinaire pour cette toute petite aventure très modeste. Il y a des tas de gens qui ont suivi ça.
C'était sur internet déjà?
Ouais, on avait un blog.
Quelle année donc?
C'était entre 2003 et 2006. Ouais,
donc il y avait même pas. Enfin, Internet, c'était gros, mais pas du tout aussi gros.
Non, c'était pas aussi gros que ça. On avait trouvé une banque qui avait accepté de nous faire un deal pour payer en carte bleue sur Internet parce que ça n'existait pas. Ça coûtait extrêmement cher. Et donc là, il avait accepté.
Quelle banque?
Je ne sais plus. Je crois que c'est la SOG.
D'accord.
La Société Générale. Il me semble que c'est eux. À l'époque, il y a 5 000 personnes qui nous avaient donné leur mail pour qu'on leur raconte tous les jours. Tous les jours, on envoyait une nouvelle. Aujourd'hui, 5 000 personnes qui donnent leur mail, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, il y en a une belle communauté qui suivait ça. C'était assez extraordinaire. Moi, ça a été le déclencheur de tout.
Et là, tu étais sur une épave flottante.
Ah ouais.
Que t'as acheté, comment, à qui
Alors, c'est Brice qui l'a acheté et on s'est retrouvé avec ce bateau qui était un bateau qui pourrissait en Belgique parce que le propriétaire pouvait plus rentrer à l'intérieur parce qu'il était devenu trop gros. Donc, il pourrissait et le bateau était vraiment pourri. Il était fait un peu à la truelle et le lest qui est normalement en plomb sur ces bateaux-là. Là, il n'avait pas d'argent, donc il était avec des galets et des clous de chemin de fer.
Aïe. Vous l'avez refait?
On l'a refait, mais on n'y connaissait rien, donc on l'a refait comme on pouvait. Mais c'était un bateau, Isabelle Autissier, qu'on a rencontré en Patagonie, longtemps après le départ, nous a dit en nous voyant que jamais elle aurait traversé la rade de Brest sur ce bateau-là. C'était de la folie. Et c'est vrai qu'avec du recul, moi, j'aurais jamais fait ça. C'était pure folie.
Dangereux, quoi.
Ouais, c'était dangereux.
Et en plus, t'emmenais des jeunes là-dessus.
Alors, sur des balades. Mais d'accord. On est surtout allé dans les mers du Sud. Moi, pendant le Vendée Globe, je suis repassé par les endroits où je suis passé avec ce bateau-là, notamment toute la traversée du Pacifique Sud. Et je le referai jamais, ce qu'on a fait. C'était vraiment un truc de fou. Le bateau coulait. Enfin, c'était totalement déraisonnable.
C'était formateur.
Ouais.
Et donc, d'accord. Et donc, vous avez financé vous-même plus le crowdfunding et ça a suffi.
Ouais.
C'était comme ça.
Ah ouais.
OK, pour vous lancer. Mais écoute, ça, c'est les rêves on sent qu'ils étaient profonds, que tu as voulu le réaliser vite.
Ouais, enfin, tout est possible. Hein, quand on a une envie farouche, tout est possible.
Et donc, un tour de faute de monde à la voile. Deux petites dernières choses. Tu m'as parlé de causes actuellement et de mécènes. Donc, on parle notamment du défi Comme un seul homme. C'est quoi Comme un seul homme ?
Comme un seul homme, c'est des aventures contagieuses. L'idée, c'est de lutter contre le recroquevillement sur soi, de démontrer que l'autre est la clé pour être performant, innovant et être heureux. Et je suis intimement convaincu que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer, c'est quelque chose qui doit être inspiré et on doit démontrer et si possible donner des clés. Et pour ça, moi, je me sers de l'émotion de l'aventure. Donc, je tente des choses que je n'ai jamais faites avec des équipages avec qui je ne devrais pas vivre ou travailler.
D'accord.
Et on raconte tout. On raconte les galères, les échecs et en quoi ça marche. Et à chaque fois, et ça fait là depuis le début de ces aventures-là, que en ayant toujours parié sur quelque chose qui est différent de moi, en ayant accepté d'avoir cette bienveillance, de faire deux pas dans le noir, eh ben, j'obtiens des choses que je ne pensais pas obtenir. Et j'explose tout ce que je pensais espérer. Et le Vendée Globe, c'est le dernier exemple en date. Jamais fait de solitaire. Je me retrouve premier bisu de l'épreuve.
9e au total.
Ouais, 9e.
9e sur
28.
28, à l'arrivée, il en restait 17 ou
29, on était 28 ou 29, je ne sais plus.
Bravo, hein, c'est vrai que c'est vraiment la force de ton projet et premier bisu, ça doit faire quelque chose.
Ouais, mais ça,
surtout que tu as fait une remontée de folie, quoi. Il y a un moment quand même où tu étais 15e ou 7e.
Ouais. Bah, écoute, c'est parce qu'il y a un moment où, en ayant accepté de faire quelque chose de différent, en ayant... En m'étant fait confiance, en faisant confiance dans mon bateau, en m'étant forgé vraiment un état d'esprit pionnier, en vraiment en choisissant de pas choisir l'objectif, mais de choisir l'harmonie, ben je me suis senti vraiment en état de grâce. J'ai eu un mois d'état de grâce et là j'ai doublé tout le monde, quoi. Je volais sur l'eau. Mais je l'avais déjà ressenti donc avec Sam Goodchild en double et je l'avais déjà ressenti en équipe sur Team Jolokia. Ou sur le Fastnet, avec 12 personnes de cette équipe, on est allé battre des professionnels, des mercenaires de la Coupe de l'América, qui ont été bien étonnés en découvrant que le bateau qui les aurait battus, il y avait un gars qui descendait avec son fauteuil roulant, un autre qui dépliait sa canne d'aveugle, des filles pas petites, pas musclées, des gars bedonnants. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, en choisissant cette différence-là, on a cet état de grâce qui rend heureux parce qu'à chaque fois, on vit plus qu'une course, on vit une aventure totale. Et ça, tout le monde peut le vivre. Et je crois que c'est une promesse intéressante pour les entreprises et puis aussi pour une nation.
Et pour les gens dans leur ensemble, mais je crois que, à toute proportion gardée, avec beaucoup de modestie, j'essaye aussi un peu de... Je crois que je suis pas mal dans cette recherche de cause avec au moins Génération Do It Yourself, c'est-à-dire se dire en effet, et je suis ravi parce que ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est ça fait partie des valeurs que j'aime transmettre. C'est de se dire qu'en effet, allons vers la différence, allons faire des choses qu'on pense ne pas forcément pouvoir faire. Tentons les choses ailleurs, sortons de notre zone de confort. Et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Et ce qui est pas si simple, c'est de trouver. Alors pour toi, des mécènes, je pense aussi. Et ça fait partie de ta vie aujourd'hui de trouver les mécènes. C'est les mêmes qui t'accompagnent. Enfin, est-ce que tu fais des tours de table? Comment ça se passe du coup?
Bien sûr.
Quoi le modèle économique?
Je cherche toujours de l'argent. Le modèle économique, c'est du mécénat, hein. C'est une cause. Moi, je tombe sur des entreprises qui sont assez extraordinaires et sur des gens assez extraordinaires qui se disent que la différence, c'est pas une case à cocher dans leur rapport annuel. Le bullshit, ça les intéresse pas, quoi. Donc, c'est des entreprises quasiment militantes en disant, voilà, nous, ce qu'on vit à l'intérieur, si on le fait bien à l'intérieur de l'entreprise, ça peut rejaillir sur la société. Et démontrer qu'aujourd'hui, une société qui se recroqueville ou qui croit que des vieilles recettes vont permettre de se sentir heureux, ils vont se planter.
Je trouve que c'est une pensée hyper moderne, une vision hyper moderne. Et on peut les citer, tes mécènes?
Bien sûr. On va les citer. Alors, il y a la société Salesforce, qui est mécène majeure. Il y a Clésia, l'EM Lyon, TF1, Raise, Lisplan, Altavia, la holding Pernod Ricard, la société Tuan.
Éventuellement, tu m'envoies vers la liste aussi, je les cite.
Ouais, c'est toute la société Intitech Trépia, la société Nicole.
D'accord.
Donc, tout ça, c'est des entreprises vraiment qui méritent d'être citées parce que elles prennent des risques, quoi.
Elles te demandent rien en retour.
Rien.
Et ils sont même pas sur le bateau, je crois, si là.
Ils apparaissent en tout petit sur le bateau à titre de remerciement.
D'accord.
Mais non, ils demandent rien. La seule chose qu'ils attendent, c'est d'avoir cette contagion positive dans l'entreprise.
Toi, tu fais des choses chez eux ou tu vas les voir?
Je vais les voir, j'embarque les collaborateurs et eux font en sorte d'animer aussi la chose en interne. Mais l'objectif, il n'est même pas d'améliorer les choses dans l'entreprise, parce que ça améliore les choses concrètement dans l'entreprise, mais c'est vraiment faire en sorte que chaque collaborateur devienne un ambassadeur de ça.
Et un Salesforce, comment tu arrives à choper un Salesforce qui est quand même un... c'est par la France ou
c'est des rencontres. C'est des rencontres avec Olivier Derrien, le patron de la France. Olivier, au moment où on s'est rencontrés, il avait un besoin de fédérer ses troupes parce que Salesforce a une croissance énorme. Ouais. Et donc, que les collaborateurs aient un lien fort. Et Salesforce, la société a un modèle... de charity qui est poussé par Marc Benioff, qui est le créateur, qui est le 1%. Donc, ils donnent 1% de leur chiffre d'affaires, 1% de leurs produits et 1% du temps de leurs collaborateurs pour des causes.
D'accord.
Et pour eux, c'est super important. Et aujourd'hui, la cause diversity et equality est aussi primordiale. Enfin, c'est leur sujet numéro un. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là. Et donc, ils ont choisi comme un seul homme parce que c'était sexy.
Oui.
Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de diversité en France, et je déteste ce mot diversité, c'est toujours avec des discours bien pensants, angéliques, qui nous font chier. Moi, il n'y a rien de pire que d'aller à la semaine du handicap ou la journée équité homme-femme, etc. Ça ne marche pas, personne n'a envie d'aller là-dedans. Comme un seul homme, c'est une démarche complètement différente, c'est des aventures contagieuses. L'idée, c'est d'amener des gens qui ne devraient pas être là à s'asseoir et à écouter. Et ça fonctionne super bien.
Comment les gens peuvent te contacter? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn,
LinkedIn,
Twitter,
comme un seul homme, sur Facebook. Il y a plein de façons de me contacter, c'est assez facile.
Il suffit de chercher un petit peu sur le site.
Mais comme un seul homme, vous trouverez.
Voilà. Et ma dernière question, j'en aurais plein d'autres, mais je vais en avoir deux, mais que je pose à pas mal de gens. Si tu avais un conseil à donner à Eric à la sortie de l'EM Lyon,
fais deux pas dans le noir. Fais deux pas dans le noir, c'est la clé de ton bonheur.
C'est intéressant, c'était un peu le sens de ma dernière question que j'avais, parce que on cherche tous un peu le bonheur, et souvent maladroitement, t'es pas trop passé par cette case, mais on le cherche souvent dans un premier temps, par le succès professionnel, par l'argent, par pas mal de choses. Puis on se rend très vite compte que ça fonctionne pas du tout. Et Et du coup, quand je vois ta tête sur ces vidéos où t'as l'air au sommet de l'Everest, tu l'es quelque part, hein, mais dans d'autres conditions. Et là, t'as l'air très heureux. Mais est-ce que entre les aventures, est-ce que le bonheur, tu ne l'atteins que à ce moment-là, ou est-ce que entre les aventures, t'es malheureux? Est-ce que parce que ce serait assez limité finalement aussi de dire. Je vais chercher le bonheur à ce moment-là, et puis le reste du temps, je suis malheureux. Ce serait pas une totale réussite. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, je vois très bien ce que tu veux dire, et je suis passé par là aussi. Ça m'arrivait souvent de créer une aventure, et puis après de déprimer, après que l'aventure se soit passée, parce que je mettais tellement de choses, puis j'avais tant d'attentes de ces aventures que j'étais souvent déçu par le résultat. Et ça crée, c'était assez positif aussi parce que ça crée des frustrations et d'autres questions qui nourrissaient l'aventure d'après. Mmh. C'est comme ça que j'ai fait 4 aventures. La seule chose, c'est que peut-être en vieillissant, ou je sais pas, en réfléchissant et en me connaissant mieux, parce que j'ai fait aussi un gros travail sur moi, parce que quand tu t'intéresses à l'autre, à la relation à l'autre, tu t'intéresses à toi et à la relation à toi-même. Donc ça, pour moi, tout ça, ça va avec un gros travail personnel pour se découvrir soi-même. Cette aventure du Vendée Globe, comme un seul homme, je l'ai voulu pour me faire du bien aussi. Et j'ai jamais voulu me sacrifier quelque chose. C'était une aventure à vivre en sérénité, en bonheur, avec mon équipe aussi. Et donc, je me suis extrêmement préservé pendant cette aventure, même si j'ai souffert énormément aussi. Mais en arrivant, j'avais cette double satisfaction d'avoir atteint bien au-delà de tous mes rêves, mais aussi de m'être extrêmement, extrêmement respecté. Et donc, je ne ressens pas cette déprime-là, parce que c'est plutôt, je ressens un sentiment d'achievement, comme disent les Anglais. Je ne sais pas quoi, je ne trouve pas le mot en anglais, mais c'est voilà, c'est pleinement accompli. Et donc, je me sens extrêmement libre d'aller sur d'autres territoires. Je me sens extrêmement serein et je suis très heureux.
D'accord. Bah écoute, merci d'avoir partagé ce bonheur. Alors, je suis ravi d'avoir de cette discussion, Eric. J'espère que tout le monde sera ravi et puis te suivra un peu partout et puis qu'on aura l'occasion de se recroiser après de prochaines belles aventures. À bientôt.
Merci beaucoup pour la qualité des questions.
Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. J'espère que cet épisode vous a plu. J'imagine que c'est le cas si vous êtes encore là. Alors si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux et puis évidemment à le noter, en particulier sur iTunes, pour remonter dans l'algorithme de nos amis de chez Apple. Je vous souhaite une très bonne journée. L'épisode 14 de Génération Do It Yourself, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.